Bacchus et Jésus en balade avec Jérémy, votre théologien et sommelier.
Enfin, nous sommes là, entre nous tous les deux, seul à seul, tête à tête, et les yeux dans les yeux. J'avais tant à te dire, mais par où commencer? Deux verres, une bouteille, je crois que j'ai trouvé.
C'est avec cette magnifique chanson que nous entamons une émission un peu spéciale qui vise à vous présenter une nouvelle émission au titre très très étonnant, chers auditeurs de FM+. Très étonnant. Écoutez bien, Jésus et Bacchus en balade. Bon, me voici avec Jérémy. Bonjour Jérémy.
Bonjour Babette.
Donc Jérémy, tu as proposé à notre radio une émission qui paraît très très inattendue sur la Bible et le vin.
Absolument.
Pour qui peut-être ne s'y connaît pas, ni en vin ni en Bible.
Oui.
Mais bon, voilà. Et nous l'avons accepté.
Merci.
Malgré le titre qui est tout aussi étonnant, Jésus et Bacchus en balade. Donc voilà, ce serait un peu les péripatéticiens de la religion.
Oui, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais j'aime beaucoup ça. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier que péripatéticien, ça vient de péripatéo, qui veut dire marcher.
Absolument. Hein, voilà, parce qu'on et que ça aide à penser.
Absolument, souvent. Oui, mais tout à fait.
Voilà. Et donc, en fait, cette première émission est une espèce de prolégomène, en fait. Tu vas pouvoir dire, justement, qui tu es, pourquoi tu as choisi ce sujet, quelle est ta méthode, quelle est ta perspective, quel est ton dessin, etc. Voilà. Moi, je ne suis là que cette première émission, Babette Soulier la porte. Et c'est toi qui fais ton émission.
C'est ça, tu m'aides.
Absolument.
Sur ma rampe de lancement.
Voilà, surtout comme ça, on va apprendre à te connaître avant de savoir d'où tu parles. Parce que c'est ça qui est important, je trouve, c'est d'où parlent les gens quand ils disent quelque chose. Voilà. Donc, avant de repréciser qui sont Jésus et Bacchus, peut-être, hein, voilà.
Oh, un peu, hein.
On va demander d'abord, qui es-tu, Jérémy Cadière?
Eh bien, ça, c'est une question compliquée. Parce que le souci avec moi, ce n'est pas de me faire parler, généralement, c'est de me faire taire. Mais qui je suis, en fait, j'ai grandi dans le sud de la France et j'ai toujours une petite éducation réformée. J'ai le pédigré classique du petit réformé de base. Donc j'ai toujours été dans un milieu protestant. J'ai fait de la théologie pour être pasteur, dans un premier temps. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, je m'y suis bien épanoui. J'ai changé vraiment mes perspectives dans ma spiritualité, dans mes sensibilités. J'ai une foi qui est multicolore, parce que j'ai été nourri d'églises évangéliques, d'églises évangéliques plus charismatiques, et d'églises réformées plus libérales, d'églises aussi dans d'autres cultures. Voilà. Donc ça a vraiment nourri ma théologie. Mais à la fin de mon cursus de théologie, plutôt que d'être pasteur, j'ai décidé d'être sommelier.
Voilà. Ah d'accord,
c'est ça.
Et on commence à comprendre.
Et voilà, et j'ai été sommelier effectivement. J'ai travaillé d'abord dans les Alpes et ensuite en Angleterre, où j'ai fait mes armes en Angleterre dans un gros resto.
D'accord.
Un resto doublement étoilé.
Ouais.
Avec une
dans quelle ville?
C'était à côté d'Oxford, c'est la campagne d'Oxford dans l'Oxfordshire. Mm-hmm. Et d'ailleurs, le chef, c'était un Français.
Ouais.
Qui était installé quand même en Angleterre depuis plus de 20 ans. Mais
oui.
il avait pignon sur rue et tout, et voilà. Donc, et ensuite, je suis revenu, j'ai rencontré ma femme qui est pasteur. Donc, plutôt que moi-même d'être pasteur, j'ai préféré être femme de pasteur. Voilà.
C'est une jolie expression.
Oui, c'est souvent comme on a l'image du pasteur qui doit être un homme.
Bien sûr.
Pour un peu choquer, je dis que moi-même, je suis femme de pasteur.
Mmh.
Mais voilà, donc, et il se trouve que le vin... C'est pour moi un plaisir existentiel. J'ai grandi aussi entouré de vignes. Mes deux grands-parents étaient vignerons. J'ai habité à côté de la cave coopérative de mon village. Donc, dès la rentrée, en septembre, quand les raisins étaient amenés à la cave, je jetais mon sac à dos quand je rentrais de l'école et je courais voir les raisins arriver dans les conquets. Donc, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours dégusté du vin. Mes grands-parents me faisaient goûter un peu de Carthagène dans un fond de verre.
La fameuse Carthagène.
Voilà, quand j'avais 14 ans, tout ça.
C'est une Madeleine de Proust pour moi aussi.
Oui, mais voilà, je t'en ferai goûter à l'occasion si tu veux. Et voilà, donc j'ai toujours vraiment baigné dans cet univers de la viticulture. J'ai aussi toujours baigné dans cet univers de la spiritualité, avec plus ou moins de distance, parce que la foi appartient à chacun et se partage, mais après, chacun la vit différemment.
Elle va, elle vient, quelquefois.
Oui, c'est ça, absolument. Ça a été mon cas, d'ailleurs.
Ouais.
Et au final, j'aime toujours autant la théologie, j'aime parler de spiritualité. La Bible, je trouve que c'est un livre fascinant qui parle de l'humanité. Étant aussi passionné par la psychanalyse, je retrouve beaucoup d'éléments de psychanalyse dans la Bible. Et si Freud, qui était juif, donc pétri de Torah et du Talmud, voilà.
Ouais.
C'est peut-être pas par hasard non plus s'il a développé la psychanalyse. Donc je retrouve vraiment toutes mes passions là-dedans, que ce soit la Bible, la discussion autour de la Bible, la discussion contradictoire, je dirais même, parce que c'est presque ennuyeux si on est toujours d'accord.
Ouais.
Donc j'aime discuter avec des copains, un copain qui est profondément athée, et j'aime bien parler. Et j'aime beaucoup déguster du vin et en plus en parler abondamment. Parce que moi, le vin me fait parler. Il n'y a qu'un vin, un jour, qui m'a mis les larmes aux yeux et qui m'a fait taire.
La Crema Christi ?
Non. C'était un vin d'Alsace. D'accord. C'était assez exceptionnel.
D'accord.
Et voilà. Donc, et avec cette émission, Bacchus et Jésus en balade, j'ai envie de réunir mes deux passions, les deux trucs qui sont en moi et qui bouillonnent.
Et formidable, voilà. Formidable. Parce que justement, cette émission, non seulement tu vas les réunir, tes passions, mais tu vas les communiquer, les transmettre et les partager. Quoi. C'est formidable, ça, vraiment. C'est, tu ne le gardes pas pour toi.
Non.
Parce que c'est une générosité, autant la foi que le vin, finalement, c'en est partage.
Mais je suis entièrement d'accord. Et voilà. Je pense qu'on a un souci, c'est que parfois, on n'ose pas parler de ces choses qui nous font vivre. Ben, ma foi, je peux la partager sans pour autant te l'imposer. Et on dit non, c'est la foi, c'est privé. Oui, c'est privé, mais je peux t'en parler. Je veux dire, je te dis ce que je crois. T'es pas obligé d'être d'accord, mais tu peux me dire d'accord.
Oui.
Merci d'avoir partagé ça.
Tout à fait.
Et donc je peux le faire très librement. Parler du vin, je peux le faire très librement. Et on peut me dire, moi, je ne bois pas d'alcool. Ben ok.
Oui,
je n'ai pas de jugement par rapport à ça.
Non.
J'entends. Moi, c'est vrai qu'à la maison, quand il y a des gens qui viennent l'apéro, ben je propose toujours du vin, bien entendu, un cocktail éventuellement, et puis des softs.
Ouais.
Si jamais ils ne veulent pas boire d'alcool, s'ils ont eu un souci d'alcoolisme ou quoi que ce soit, qu'ils se sentent libres de me dire, je préfère un coca, je préfère
tout
un jus de fruits,
plaisir et voilà.
Oui.
Mais c'est aussi une certaine forme de connaissance et de savoir. C'est ça qui est intéressant.
Oui, ben c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours aimé partager. J'aime partager. Je suis très enthousiaste sur ce que j'aime et j'ai du mal à le garder à l'intérieur. Et ça a été un petit peu mon fil conducteur dans tout mon parcours depuis que ce soit à la fac ou en resto. C'est j'aime vulgariser les choses.
C'est intéressant, ça.
Que ce soit dans la Bible.
Oui.
Parce que souvent, on parle du patois de Canaan pour les pasteurs. Les protestants, on a notre petit langage, on a nos saints. Je mets des guillemets, mais ça ne se voit pas au micro.
Ouais.
Mais bon, c'est des crypto-saints,
oui.
Parfois.
Tout
mais on a nos habitudes, notre petit langage, nos
vrai.
Codes, etc.
Oui.
Et je trouve que j'ai plein d'amis, quand j'ai été en resto, justement, qui étaient complètement athées. Et j'ai toujours essayé de partager ma foi, ma spiritualité, en la rendant accessible.
Ben c'est comme ça qu'on convainc, justement, je trouve.
Mais oui.
Mais enfin, bon. Et donc, alors... Justement, ça m'amène à l'autre question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi rapprocher Jésus et Bacchus ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que juste parce que justement ce sont tes deux passions, théologie et vin, ou non ? Parce que bon, Bacchus, quand même, tu te souviens de la polémique qu'il y a eu au moment du 14 juillet avec cette histoire de Sainte-Seine qui finalement était dionysiaque.
Pour les Jeux Olympiques.
Parce que c'est vrai que Bacchus est quand même un dieu romain. Bon, Dionysos
romain et grec,
c'est Dionysos quand c'est voilà.
Oui, voilà.
Donc c'est quand même le Parthénon païen, c'est ce contre quoi là on peut objecter que c'est ce contre quoi la religion chrétienne s'est battue au début, hein, en tout cas le veau d'or, etc. Donc il y avait quand même voilà pour instituer justement un monothéisme en fait. Voilà,
oui.
C'est un dieu de l'ivresse, c'est un dieu du débordement. Donc on a l'impression que Jésus lui était quelqu'un de extrêmement.
Mesuré, oui, un petit garçon sage.
Mesuré,
oui.
En tout cas, quelqu'un, oui, c'est ça. Bon, apparemment, il y a aussi des évangiles apocryphes qui montrent que c'était un bon vivant, c'est pas un Bacchus, on peut pas les confondre, on peut les faire cheminer ensemble, voilà, mais pas les confondre. Donc voilà, je veux juste, pour le titre de ton émission, comment tu le. Voilà,
ils sont alors,
en balade en plus.
Effectivement, alors. Pour Bacchus et Jésus, déjà pour moi, ne sont pas si éloignés. Et il y a le fait que Bacchus, effectivement, symbolise le vin et Jésus symbolise plutôt le côté théologique, le côté Bible.
Je comprends.
Voilà, tout simplement, déjà, il y aurait.
Un petit clin d'œil chouette. Voilà.
Ce clin d'œil. Pourquoi en balade ? Ben parce que dans l'émission que je veux proposer, la première partie de l'émission, ce sera une balade avec un vigneron.
Voilà. Ah, très intéressant ça. Donc tu vas aller chez le vigneron, ouais. D'accord.
Chez le vigneron, je vais discuter des vignerons du coin, des vignerons de plus loin. Ou ça peut être avec, je peux inviter un collègue vigneron ou pasteur ou autre pour discuter. Mais toujours, voilà. D'accord. La première partie, ce sera une rencontre dans les vignes.
In situ, voilà, dans les vignes.
Dans les vignes, en général, sauf quelques exceptions.
D'accord. Et est-ce que tu iras aussi, si tu en as la possibilité, voir justement là où ils font le vin, voilà, leur côté, les cuves, le...
C'est une balade, c'est un petit peu comme si...
Ah, c'est intéressant, c'est une balade presque œnologique, en fait.
C'est ça, c'est en quelque sorte, c'est comme si vous preniez votre voiture, que vous arrêtiez dans un domaine,
d'accord.
Et que vous rencontrez le vigneron, et je vais poser des questions, qui me parle un peu de son domaine, de ses vins, de la nature.
D'accord.
Voilà, quelque chose comme
ça. Très intéressant.
Donc voilà, Bacchus et Jésus en balade. Et puis après, pour aller un petit peu plus loin de pourquoi Bacchus et Jésus, parce que je pense qu'ils sont plus proches que... Il n'y a pas que moi qui le pense d'ailleurs, je me suis appuyé sur d'autres réflexions. Mais j'ai eu l'occasion, en faisant des petites conférences là-dessus sur la Bible et le vin, en lisant différents ouvrages, de me rendre compte que le rite bachique et le rite chrétien de la Seine ont des similitudes.
D'accord.
Le rite bachique, tel qu'il était décrit, il n'a peut-être jamais été appliqué, mais il est assez gore, si on peut dire. Mais en gros, il faut prendre une victime vivante, la rompre et la consommer, lui consommer la chair. Et si on regarde le rite chrétien, la scène, alors là, c'est symbolisé par le pain, Jésus a bien dit, prenez mon corps rompu.
Oui, tout à fait.
Donc, je trouve qu'il y a déjà des ponts.
Il y a un parallèle sang et vin.
Déjà ça, chaque année, il y avait une fête bachique où Bacchus ou Dionysos, je ne sais plus, ce n'est pas très important. Mais en tout cas, Bacchus apparaissait une fois par an et transformait de l'eau en vin.
Oui.
Et ça fait écho, bien entendu, aux noces de Cana.
Aux noces de Cana,
Justement, je pense que tout à l'heure, tu me disais qu'il y a dans des textes apocryphes, on retrouve Jésus bon vivant. Je trouve que déjà, dans les textes canoniques, si on enlève la patine que la tradition a mis, si on enlève la patine que les bien-pensants ont mis, on trouve que Jésus, il passait son temps avec 12 copains à boire du vin. Il était à justement, on a voulu l'isoler, on a voulu isoler que ce côté théologique, ce côté bon enfant. Et bien entendu, Jésus, ce serait pas le genre, à 12 ans, à s'éloigner de ses parents pour aller parler avec d'autres personnes dans un temple.
Non.
On ne retrouve pas ce passage dans la Bible.
Oui.
Eh bien si, dans les évangiles, à un moment donné, les parents ne trouvent plus Jésus, ils sont partis, ils sont rentrés chez eux, et Jésus, il a fait une petite fugue.
Oui.
Sauf qu'on en a fait juste, forcément, c'est le Messie. Non, c'est un gamin qui s'est barré de chez ses parents.
C'est aussi ça, oui.
Donc on a polissé Jésus, on en a fait un petit angelot.
Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on ne sait pas grand-chose sur lui, entre ses 12 et la fin de sa vie,
oui,
quoi, les
30 ans. Enfin, oui, c'est ça, il a fait la crise d'ado.
On ne sait pas grand-chose, oui, c'est étonnant, oui, effectivement.
Non, mais après, parce qu'effectivement, dans les textes évangéliques, c'est des textes d'enseignement, de transmission, pour l'édification et la transmission de la foi.
Oui.
Donc, savoir s'il a fait sa crise d'ado, s'il avait des boutons.
Oui, peu importe. C'est vrai que, je ne sais plus quel est le texte, en fait, mais je crois que les Juifs de l'époque lui reprochent justement de se festoyer pendant le sabbat ou de manger pendant le sabbat.
Absolument.
Et d'être un peu trop... C'est pas ces apôtres qui sont un peu trop gloutons. Il y a un terme,
effectivement, on lui reproche
finalement d'être une bande de joyeux copains aussi,
Sauf qu'on a polissé tout ça. Donc je pense que Jésus, c'était un bon vivant.
Ouais.
Et les textes canoniques le montrent. Donc voilà, depuis la fac de Théo, j'ai en tête un jour de peut-être faire une recherche, une thèse sur Jésus, disciple de Bacchus.
D'accord. Voilà. Ah oui, jusque-là.
Jusque-là, dans la mesure où, en fait, je pense qu'il y avait une inspiration aussi... des religions aussi environnantes.
Oui, de toute façon.
Et que, que ce soit la scène, l'importance du vin.
Est-ce qu'il y a beaucoup de mentions de vin dans la Bible, justement ? Je me suis posé la question.
Oui, alors le mot vin, il est autour de plus de 160 fois dans l'Ancien Testament et 70 fois dans le Nouveau Testament.
Ah oui, c'est beaucoup.
Et au-delà, il n'y a pas que le mot vin, parce qu'après, il y a le mot vigne, il y a le mot cèpe, il y a le mot pépin. Il parle de même mélange qui désigne un vin, parce que le vin était mélangé à l'époque.
C'est ça, je vais te demander aussi, comment est-ce qu'on préparait le vin ? Parce que j'ai vu, à un moment, ils y mettent de la myrrhe dedans, non ? Dans le texte biblique, à un moment, c'est noté, je crois.
Il y avait toutes sortes d'ajouts. Il y avait toutes sortes d'ajouts parce que le vin pur, comme on le voit maintenant, comme on le trouve dans les bouteilles, on ne l'a plus comme c'était. En fait, déjà le vin, à l'époque, il faut bien imaginer qu'il n'y avait pas, tous ces systèmes de groupes de froid, tous ces systèmes pour...
Ah oui, il y avait un problème de conservation, ben, tu voilà, veux dire.
Il y avait des questions de conservation, de vinification, il n'y avait pas forcément les mêmes cuves maintenant qu'on peut fermer, des cuves inox ou des cuves en résine, etc., dont on peut décider le volume. Donc c'était des fois dans de la roche creusée, dans des constructions à l'extérieur.
On trouve des citernes d'ailleurs.
Voilà, on trouve des citernes, exactement. Oui, le raisin était foulé et ensuite le jus était conservé dans des amphores, etc.
D'accord. Donc ça servait un peu de conservateur, ce qu'on ajoutait, alors, les herbes, voilà, les... D'accord.
Exactement. Des herbes. Alors, je pense de conservateur et aussi peut-être de le rendre un peu digeste parce que le vin, forcément, il devait être parfois légèrement oxydé.
Ouais.
Il devait avoir ce qu'on appelle maintenant des déviances.
Ah ouais.
Voilà.
Qui se madérisait aussi.
Oui, c'est possible qu'il se cuise un peu, des fois, avec la chaleur. Voilà, mais donc on rajoutait parfois du miel, on rajoutait des épices.
Du miel, oui, d'accord.
Oui, on rajoutait du miel. Ouais. Ben, on le sucrait. Maintenant, c'est ce qu'on appelle l'hypocras, le vin médiéval, quoi.
Ah,
mais voilà,
oui,
donc
ça,
on y rajoutait des épices, on y rajoutait du vin, on y rajoutait. Même parfois, certains y rajoutaient du fromage direct dedans.
Ah, oui, ça, c'est extraordinaire.
Oui, c'est assez cocasse. Mais voilà.
C'est mieux que de faire chambre aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Mais parce que le vin pur n'était pas dégusté.
D'accord, comme maintenant, justement, c'est un peu.
Il y a même, on trouve, c'est le Clos Romain à Beaucaire. Ils font un vin comme à l'ancienne, il y a une de leurs cuvées, ils rajoutent de l'eau de mer dedans.
Ça alors.
Alors j'ai pas goûté, mais on m'a dit que c'était pas dingue.
Ah oui, alors, j'imagine.
C'est comme si vous buviez la tasse pendant le vendage, quoi.
Mais ça, bon, ça doit être rigolo.
Ouais, c'est vrai, cocasse. Ouais. Mais voilà, donc je veux dire, le vin à l'époque, on le voyait pas de la même manière
maintenant. Non, bien sûr, ça n'avait pas du tout la même. Ouais,
voilà, mais il avait quand même un rôle particulier. Il avait un côté symbolique, que ce soit justement dans le cadre des religions romaines, mésopotamiennes, même égyptiennes, ou ensuite de nos traditions chrétiennes, les religions gauloises, etc. Le vin avait toujours un rôle symbolique de lien entre le divin et l'humain.
Ah, ça c'est intéressant. Donc c'est un peu vertical, quoi. C'était pas juste, l'horizontalité de on boit ensemble, etc.
Parce que, alors, au tout début, il y avait l'ambroisie, l'hydromel, l'ambroisie, qui était la boisson des dieux.
Et voilà. Oui, tout à fait.
Mais très rapidement, le vin a pris le pas.
D'accord.
Et en même temps, c'est vrai que c'est sans doute aussi lié un peu à l'ivresse. Quand il y a une certaine ivresse, un lâcher prise, ben, du coup, il y a un contact avec le divin d'une certaine manière.
Voilà. Oui, bien sûr.
Donc,
quoi, avec les champignons.
Oui.
Mais bon, c'est autre chose.
C'est autre chose, certes, mais c'est vrai que le vin a ce côté noble, justement, ce caractère divin.
Bien sûr.
Parce que, on le retrouve avec... Alors, justement, je lisais quelque chose qui disait que l'eau est essentielle, mais pas divine.
Ah oui.
Et ce qui rend
pourtant, il y a l'eau du baptême, c'est
oui,
c'est autre
mais ça,
chose.
C'est un autre symbole.
C'est un symbole, c'est un symbole. Tu as raison.
Mais dans ce contexte-là, ce qui rend le caractère divin, en fait, j'ai l'impression, et c'est ce que je lisais dans un livre d'Evelyne Malnick, qui est journaliste et qui a écrit sur le vin et le sacré, et elle disait que c'est la question de la fermentation qui changeait tout.
D'accord.
Un petit peu comme s'il y avait une sorte de magie divine à travers le phénomène de fermentation.
Il y a un peu une transmutation alchimique là aussi.
Ouais, on pourrait peut-être le voir comme ça, mais en tout cas, cette espèce d'insondable qu'à partir d'un produit, il se transforme un nouveau produit, mais comme c'est le cas pour la bière, pour le pain et tout ça.
D'accord.
D'ailleurs, le pain qu'on retrouve aussi dans le
tout à fait, dans la scène.
Et qui est un produit fermenté, issu des levures et de la fermentation, qui donne le pain ensuite.
D'accord, très intéressant. Voilà. Et donc, tu as commencé à aborder un peu comment tu vas organiser tes émissions.
Oui.
Donc, tu as effectivement d'abord cette balade que tu livres aux auditeurs, justement, chez le vigneron. Et après
Je vais faire d'abord cette balade.
Voilà, parce que nous avons Bacchus.
Voilà. Ensuite...
Ouais.
On va déguster une cuvée.
D'accord. Voilà. En direct.
Oui. Formidable. Une cuvée du domaine que j'ai.
Ouais.
Que j'ai
d'accord. Que j'ai, et tu feras des commentaires. Donc,
voilà. Et justement, j'ai amené une cuvée.
Ah, voilà. Voilà. Vous avez entendu le bruit du bouchon.
J'ai senti le bouchon aussi pour voir s'il était en bon état.
Ouais.
Je vais. Voilà. On peut le faire. Oui.
Peut-être comme ça.
Vous entendez, vous êtes avec nous.
On aura plus le. Voilà. J'en ai trop.
Bon. T'inquiète pas. Voilà. Donc, on va déguster en même temps parce que. L'idée, c'est quand même de prendre le temps de découvrir. Donc, là, c'est une cuvée, la cuvée Vérac en AOC Languedoc de la cave de l'Or Marine. J'aime bien les caves coopératives aussi. On va.
D'accord.
J'irai sans doute à la rencontre de caves coopératives, mais aussi de vignerons indépendants.
D'accord.
En fait, je n'ai pas envie de diaboliser les caves coopératives, comme parfois c'est le cas.
Non, tu as raison.
Voilà, elles ont aussi leur rôle.
Bien sûr.
Et consommer du vin de cave coopérative, on contribue à soutenir aussi beaucoup de viticulteurs.
D'accord.
Voilà. Donc, on va déguster une cuvée du domaine. On va la déguster ensemble. Donc là, c'est un vin rouge.
Ouais.
Donc le vin, je vais le rappeler au cours des différentes émissions, mais l'idée c'est de prendre le temps de le découvrir avec vous. Mm-hmm. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez aller vous procurer la cuvée chez le vigneron. Donc, mais pour bien apprécier un vin, je dis souvent, c'est comme séduire. Il faut prendre le temps, ne pas se jeter sur la personne qu'on a envie de séduire. Mm. On prend le temps de regarder, d'observer la robe, d'observer l'apparence. On voit les larmes. Alors là, ce n'est pas les larmes de Bacchus, ce ne sont pas des larmes de tristesse. C'est ces petites gouttes qui coulent le long du verre. Voilà, ça indique
que c'est lié à la graisse, non?
Alors, on parle du gras, mais il n'y a pas de graisse dans le vin.
Bien sûr.
On parle, c'est soit le sucre, d'accord, soit l'alcool dans le vin qui va couler le long de la paroi, qui est un peu plus visqueux que le vin.
D'accord.
Il y a 85% d'eau.
Ouais. Là, il me semble qu'il n'y en a pas énormément.
Il y en a. Peu, quand tu le regardes en transparence, tu les vois et tu vois qu'elles sont légèrement colorées.
Oui, j'avais pas vu.
Elles sont légèrement colorées, elles sont un petit peu rosées. C'est que, en fait, ce vin est fait avec de la Syrah et du Grenache. Et la Syrah est très colorante.
D'accord.
Donc, déjà, de regarder rien que le vin, ça nous donne des indications sur de quoi il est composé, d'où tout il vient, est-ce qu'il sera chaleureux, etc. D'accord. Donc, je goûte un peu. Et ce bruit que je fais, on appelle ça grumé. C'est pour faire passer l'air dans la bouche et du coup développer la palette aromatique. Donc après, une fois qu'on l'a regardé, on le sent. On sent son parfum, ses arômes. Là aussi, ça nous donne des indications sur sa jeunesse, son âge, sa palette aromatique, s'il est simple, facile d'accès, complexe. Si on est plutôt sur le fruit, sur les fleurs.
Là, tu dirais quoi, là ?
Là, on a de beaux fruits noirs.
D'accord.
On a de la prune. J'ai aussi de très belles épices, j'ai du poivre, j'ai de la fleur violette, un peu de rose.
Oh, tu sens tout ça juste comme ça. Moi, je trouve bon, c'est tout.
Mais ça suffit. C'est Michel Chapoutier, vigneron dans la vallée du Rhône, qui a dit « pas besoin d'être gynécologue pour faire l'amour ».
Non, c'est sûr.
Et j'aime beaucoup ça. Parce que c'est un petit peu grivois, certes, mais ce que ça veut dire, c'est pas besoin d'être spécialiste dans un domaine pour l'apprécier.
Bien sûr.
Voilà. Enfin, pas besoin d'être sommelier ou œnologue pour apprécier le vin, pas besoin d'être théologien pour apprécier la Bible, d'ailleurs.
Non, on est d'accord.
Et je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre les deux. Donc, ce vin-là, ensuite, on le déguste, on en goûte un petit peu.
D'accord.
On prend le temps, je dis souvent, il faut le mâcher dans la bouche.
On va apprendre tous les bons termes.
Pour que toutes les muqueuses soient tapissées par ce vin, qu'on se ressent en une expérience pleine, en pleine conscience du vin.
D'accord.
Après, on peut l'avaler si on veut ou le recracher si on le souhaite. Moi, quand je vais dans un domaine, je recrache pour éviter l'ébriété, justement, par respect pour le vigneron, par respect pour mon permis de conduire aussi. Voilà. Et donc, ce vin nous donne des informations, nous parle d'un terroir, son caractère chaleureux, son caractère solaire, nous montre que c'est un vin qui a grandi à Villeveyrac, sur un terroir baigné de soleil, sur un très beau terroir des grès de Montpellier, de la OC Languedoc grès de Montpellier.
Et on va donner pas très loin son nom, de la mer.
C'est la cuvée Vérac.
La cuvée Vérac, très bien, d'accord.
Et c'est trois coopérateurs qui ont des vignes à Villeveyrac et qui amènent à la cave coopérative de l'Ormarine.
Et il y a ce très joli nom, Ormarine.
Oui, Ormarine, c'est le nom de la cave coopérative.
C'est le nom de la cave, d'accord.
C'est le nom
parfait,
de la cave coopérative.
Très bien, voilà.
Voilà.
Une fois qu'il y aura la dégustation faite,
je proposerai un texte biblique en accord Bible et vin. Donc,
super, ça, c'est pas mes vins, c'est Bible et vin. C'est beaucoup plus chic, je trouve.
N'est-ce pas ? Donc, un rapport avec le vin que je vous propose, je choisirai un texte biblique qui m'évoque quelque chose de semblable.
Ouais.
Donc là, par exemple, ce vin m'évoque quelque chose de chaleureux, avec des tanins souples, agréables. Pourquoi pas parler un épisode de Jésus, les noces de Cana, justement, où il y a un moment de fête, un moment de partage. Il a transformé l'eau en vin. Et voilà, donc ce sera l'occasion d'un regard croisé entre qu'est-ce que m'évoque ce vin et qu'est-ce qu'il me dit de son terroir, et le texte biblique des noces de Cana, qu'est-ce qu'il me dit dans la Bible, quel est le message, un petit message rapide et sympa que peut nous donner les noces de Cana. Et pour finir justement la structure de l'émission, donc je déguste en même temps que je vous parle, mais...
Oui, ce serait dommage sinon.
Mais pour finir, je finirai avec une question d'un auditeur. Alors, comme peut-être les seules personnes qui vont écouter cette émission, ce sera ma maman, le technicien et moi-même pour voir si je n'ai pas dit de bêtises ou peut-être même pas du tout.
Pas du tout, elle va faire un tabac cette émission, ne dis pas ça.
Donc, en tout cas, ce sera un auditeur fictif.
D'accord.
Où je vais m'amuser à poser une question
Très bien.
À laquelle j'aurais envie de répondre, ou pas d'ailleurs. Ouais. Peut-être je vais me poser une question à laquelle je n'aurais pas envie de me répondre.
Ouais.
Voilà.
Peut-être mais aussi, histoire... si jamais... parce que toutes nos émissions sont disponibles aussi en podcast. Si jamais tu as une vraie réaction,
pourquoi pas.
Tu la traiteras aussi peut-être. Parce que ça peut être agréable, au contraire.
Je suis parti d'un point de vue pessimiste, peut-être en me disant que personne n'écoutera. Ouais. Mais effectivement, si vous avez l'occasion d'écouter et que vous voulez me poser une question, j'y répondrai avec un plaisir indicible.
Voilà. Ça, je crois que c'est important aussi.
Et même si vous n'êtes pas d'accord absolument contre mon propos, j'aime les propos contradictoires.
Oui, bien sûr, parce que tu prends un point de vue particulier qui se justifie totalement, mais qui est effectivement original que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais donc c'est bien, ça provoque des réactions.
Mais j'avais entendu un proverbe, c'est un proverbe africain qui dit « Si tu es d'accord avec moi, tu es mon frère. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es deux fois mon frère. Parce qu'en plus, tu m'apportes quelque chose de différent. »
Voilà, bien sûr, bien sûr.
Et j'aime beaucoup ça. Et justement, c'est pour ça que j'ai contacté avant de venir un copain pasteur qui est à la Croix-Bleue. Et j'ai dit, est-ce que tu serais OK de faire une émission avec moi? C'est Bacchus et Jésus en balade. Je vais parler du vin, je vais parler de la Bible. Et j'aimerais pouvoir faire une émission de discussion, de débat, échange d'idées avec toi, avec ton côté Croix-Bleue. Parce qu'il me dit, mais absolument d'accord. Et ça fait un moment qu'on parle de faire une conférence, débat ensemble.
C'est une très bonne idée, ça.
Où moi, mon côté sommelier, lui, son côté pasteur Croix-Bleue. Ben voilà, pour
qu'il faut l'organiser, ça, absolument, au Carousel à Montpellier.
Pour qu'il puisse m'apporter son regard différent, moi que je puisse apporter mon regard sur le vin, et qu'on puisse grandir ensemble de nos idées différentes.
Tout à fait, en ayant Jésus en commun, c'est pas mal.
Mais c'est ça au final,
c'est pivot finalement.
C'est bien l'idée, c'est qu'on peut partager des choses en commun, on peut partager des différences, et on ne va pas se taper sur la figure pour autant. Quoi.
Non, bien sûr.
Voilà.
Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu auras envie de dire? Parce que l'on est arrivé un petit peu au bout de notre...
Non,
quelque chose que tu veux, je sais pas, une adresse directe aux auditeurs ou...
Non, mais j'espère vous retrouver et que ce ne sera pas justement entre le technicien et moi à chaque fois, et ma maman peut-être qui l'écoutera. Voilà, mais non, mais ce sera avec plaisir. Et puis effectivement, si vous avez...
C'est peut-être le jour où tu passes en direct.
Alors déjà, plusieurs choses. Si effectivement, il vous prend l'envie de me critiquer, de dire quelque chose, de me poser une question ou quoi que ce soit, sinon j'inventerai une question tout seul, mais vous pouvez envoyer un mail à communication, ça s'écrit comme communication@radiofmplus.org. N'hésitez pas. Et puis sinon, on se retrouve tous les premiers vendredis du mois à 13h20. Et voilà. Merci Babette.
Très bien. Ben, merci Jérémy. Écoute, on sera à l'écoute.
Avec grand plaisir.
C'est la fin de cette première émission. Au revoir tous.
Nous sommes là, entre nous tous les deux, cela seul, tête à tête, et les yeux dans les yeux. J'avais tant à te dire, mais par où commencer? Deux verres, une bouteille, je crois que j'ai trouvé.